7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les transports en commun dans le monde. Deux mots qui posent souvent problème. Le mot transport, c'est le défi logistique, ça pose problème souvent. Et le mot commun, comment vivre ces moments passés ensemble dans un espace parfois très réduit. Ça peut être un taxi collectif, un bus, un tramway, un wagon de train. Et pourtant, des innovations existent. Il y a des cabines téléphériques en Colombie, des bus rapides transit au Nigeria, qui vont arriver à Dakar. Comment les transports en commun s'adaptent à la géographie des villes, aux cultures, aux usages? Quel rôle jouent les pouvoirs publics? Pourquoi le métro japonais est impeccable et ponctuel? Alors évidemment, on ne pourra pas aborder tous les problèmes et solutions tant le sujet est vaste, mais on a envie de vous entendre, les voisins et les voisines. Alors appelez-nous pour nous parler de ce qui se passe chez vous, de vos expériences dans les transports en commun. Vous êtes déjà très nombreux à nous poster des messages. Notre numéro de WhatsApp, c'est le 33 1 84 22 71 71, 33 1 84 22 71 71. On va en discuter avec nos invités qui sont dans le studio. Nassima Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheuse au laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'école des Ponts. Bertrand Goalou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transports urbains à la Banque Asiatique de Développement, détaché à l'Agence Française de Développement, et vous suivez notamment des projets de transport urbain, que ce soit pour l'Égypte, le Nigeria, le Pakistan. Vous avez beaucoup d'exemples à nous donner, des pays d'ailleurs qui étaient mal partis et qui parviennent parfois à faire des prouesses, de quoi donner de l'espoir à d'autres pays. On sera également en ligne avec Tierno Ho, qui est directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Dakar qui concentre, je vous le rappelle, 24% de sa population du Sénégal dans la ville de Dakar et ses banlieues. Donc les besoins de transport de bus sont énormes. Il nous dira où en est le projet BRT, bus rapide transit, pour relier la banlieue nord au centre-ville. Et puis en fin d'émission, reportage en Mauritanie sur le train minier, seule voie ferrée du Sahara qui transporte aussi gratuitement des voyageurs dans les wagons qu'on appelle à ciel ouvert, tout en haut des tas de minerais de fer. Le trajet dure quand même 7 heures. Et tout de suite, un message d'un voisin en RDC qui a posté sur WhatsApp.
Salutations à tous les voisins. C'est Raphaël Macal de Bukolwezi. En RDC, pratiquement, le transport en commun est entre les mains des particuliers. C'est uniquement dans la ville de Kinshasa où l'État a quelques bus de transport en commun. Et vous comprenez que quand c'est entre les mains des particuliers, c'est eux qui font la loi. Ils ne respectent aucune norme. Ils prennent les gens comme ils veulent. Le confort, la ponctualité, le prix, c'est eux qui fixent. Et comme la population est trop nombreuse, on vous entasse. Et la ponctualité, vous n'allez pas exiger à un particulier d'amener son véhicule à temps ou quand vous voulez. C'est vous qui respectez le programme du bus. Confort comme tel, il n'y en a pas. À Kinshasa, vous avez des bus qu'on appelle 207. C'est juste, on s'assoit sur des planches. Il n'y a aucun confort. Et c'est uniquement certaines villes comme Lubumbashi où le transport en commun, les bus ont un peu de confort. Voilà à peu près, chers voisins, ce qui se passe en RDC.
Voilà, un autre message également posté sur nos réseaux sociaux de Sounan à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un message au vitriol. Chaque jour à Abidjan, nous dit Sounan, c'est la misère du matin au soir, le désordre, l'indiscipline, la violence, la corruption, l'incivisme. Il y a ici des véhicules de transport appelés communément Baka, dont les chauffeurs n'ont aucune éthique. Ils conduisent ces véhicules avec cigares et koutoukou, c'est-à-dire de l'alcool à la main. Ils fixent les prix qu'ils veulent, ils définissent les circuits qu'ils veulent. Quant à la cohabitation, cohabitation dans ces transports, c'est le calvaire. Imaginez-vous un monsieur en costume coincé dans un bus, assis entre un vendeur de poissons et un boucher. C'est grave. Voilà, en tout cas, Soudan est parfaitement mécontent. Ce qu'on peut quand même comprendre de ces messages, Bertrand Goalou et Nassima Baron, c'est qu'il y a quand même une demande vraiment aujourd'hui de confort et une demande de service public, une demande d'État, non, Bertrand Goalou ?
Une demande de confort, et c'est un contraste en fait avec l'offre qui est en place aujourd'hui. Et ce qu'on entend de Kinshasa ou d'Abidjan, en fait, c'est présent un peu partout en Afrique saharienne. On estime que 90% du transport collectif est assuré par l'informel ou le transport artisanal. Bien sûr, fortement dérégulé. Donc on essaye effectivement de tendre à plus d'organisation, plus de qualité de service. Peut-être ce qui peut contraster et peut-être nous donner un peu d'espoir quand on traite de ces questions-là, c'est de regarder ce qui s'est passé en Colombie, à Bogota, il y a une vingtaine d'années, où en fait s'est produit une petite révolution, parce qu'en fait Bogota d'il y a 20 ans, c'était ce qu'on décrit là, c'était l'informel, c'était ce qu'on appelait la guerra del centavo, des minibus qui se bagarrent pour ramasser un passager supplémentaire pour gagner un peu plus d'argent.
Au milieu des cartels de la drogue en plus.
Exactement, hein. Donc une situation qui n'a rien à envier à ce qu'on peut voir trop souvent encore en Afrique. Et aujourd'hui, quand on est à Bogota, on a un système de BRT, un réseau de plus de 400
km. De
bus rapide transit. Je vais expliquer ce que c'est, parce que ça peut faire rêver. Il y a plusieurs formes de BRT, mais en fait, au début des années 2000, c'est une vraie révolution qui s'est passée là-bas. La profession n'y croyait pas, donc les gens se déplaçaient pour voir ce que c'était. Et en fait, en arrivant à Bogota, on voyait des longs bus rouges de 25 mètres, donc biarticulés, double accordéon, qui circulaient sur des voies réservées, mais deux voies par sens, et où les passagers montaient dans les bus, dans des stations énormes, avec 5 à 6 positions d'arrêt. Et finalement, avec ce système, on offre une qualité de service équivalente à celle du métro, et le prix est bien sûr bien moindre. Et à l'époque, en fait, ce qui a été mesuré, c'est que la première phase, c'était 40 km, 1,2 million de passagers par jour, 45 000 personnes par sens et par direction en heure de pointe, et c'était tout simplement ce que faisait le RER A à Paris à l'époque.
Ouais.
Voilà, donc ce que nous dit cet exemple, c'est que, c'est pas simple à mettre en place, mais des solutions existent.
Et c'est pas sur des rails, hein, faut bien préciser. En fait, ce que vous décrivez, ça ressemble un peu à un métro, sauf qu'il n'y a pas de rails, ce sont des bus qui roulent sur des voies normales, mais bien sûr des voies protégées.
Exactement.
De la circulation.
Exactement.
Automobile.
Voilà.
Mais il n'y a pas de construction de rails. Hein. Alors bien sûr, on va y revenir à ces innovations, mais pour revenir quand même aux demandes des voisins et des voisines qui sont très nombreux à nous poster beaucoup de messages. On a Jean à Port-au-Prince qui nous dit que les transports en commun, c'est la galère, il faut 3 heures pour une distance de 15 minutes normalement en voiture. Hein. Alidi, à Maputo, au Mozambique, nous dit « J'habite à 30 km du centre-ville, je perds 4 heures par jour dans les transports. 50 personnes entrent dans un bus prévu pour 29. Beaucoup de vols, ce sont les bus de la ville. Les gens se plaignent, mais pas de réponse de l'État. On fait des grèves, tout le monde se plaint, mais le maire ne trouve pas de solution. » Et pourtant, vous venez de nous en donner des solutions. Nassima Baron.
Je crois que, bien entendu, des solutions existent et des solutions sont en train de se diffuser dans un certain nombre de pays, et je pense que les bonnes pratiques, les gouvernements commencent à recevoir toute une série de bonnes pratiques et surtout à copier les bons exemples parmi ceux que vous avez cités. Je m'arrêterai un petit peu d'abord au diagnostic, c'est-à-dire à l'insatisfaction. Elle est structurelle, hein, dans les transports métropolitains qui posent des problèmes d'abord d'effectivité. Bon, on se plaint, ce sont des gens qui arrivent à voyager. Certains n'ont pas de moyens de transport parce que l'offre est largement supérieure à la demande, et il y a cette insatisfaction. Il y a cette problématique du rapport de force entre l'offre et la demande et de non-régulation ou d'insuffisante régulation. Moi, je dirais que quand ça ne va pas, c'est souvent quand il manque un ou deux pieds à un triptyque. Mmh. C'est-à-dire qu'un système de transport, c'est d'abord évidemment une fonction transport.
Ouais.
Il faut une infrastructure, il faut des véhicules, transport collectif, ça peut être le bus, ça peut être le métro, on vient de parler du BRT, et puis il y a aussi maintenant, avec les nouvelles technologies, bon voilà, toute une série d'autres, peut-être des navettes autonomes, on pourra parler un petit peu de smart mobility. Ça, c'est la fonction transport. Il faut que cette fonction transport, ce soit non seulement un véhicule et une infrastructure, mais la possibilité de faire des chaînes de déplacement, c'est-à-dire de passer d'un moyen de transport à un autre Parce qu'on peut très bien avoir besoin pour aller au travail, pour aller à l'université, de prendre par exemple le métro plus un bus. Hein, ou, voilà. Donc pouvoir avoir cette correspondance dans des lieux de correspondance, ça c'est la fonction transport. Mais après on nous parle de service, de qualité de service. Ça va être la possibilité d'avoir une place assise, donc... d'avoir des véhicules suffisamment grands,
que tout le système fonctionne,
de pouvoir s'acheter un billet, qu'il y ait une signalétique. Donc ça c'est la fonction du service. Alors après, cerise sur le gâteau, peut-être qu'il faut aussi de temps en temps mettre, moi je ne sais pas, des distributeurs de boissons, des choses comme ça. Et puis il y a aussi la fonction urbaine, c'est-à-dire que très très souvent, évidemment, ces points d'intermodalité, ces gares routières ou ces gares ferroviaires qui sont métro, etc., elles ont une fonction dans la ville particulière. Et ça, c'est aussi très intéressant.
Alors, vous nous le disiez, le degré de satisfaction, d'ailleurs, il n'est pas forcément proportionnel au niveau de service, mais c'est vrai qu'il y a des pays très différents où les gens sont insatisfaits des transports en commun. Reportage tout de suite à Paris avec Ndeye Alatiba, qui est allée à la rencontre des usagers, pas non plus vraiment satisfaits.
Je prends souvent le métro parce qu'il y en a à peu près toutes les 2 ou 3 minutes. Je prends aussi le train, et c'est vrai que quand on rate le train, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, c'est un peu plus contraignant.
On est plus sûr d'arriver à l'heure à son rendez-vous en métro qu'en bus.
Bah, moi, je prends le métro tous les dimanches. 3 minutes, j'attends, ça va.
Je prends souvent le tram et le bus, ça me convient. Mais au niveau métro, je le prends rarement. Ils sont souvent saturés, surtout aux heures de pointe.
Mais par rapport aux autobus, c'est vrai qu'ici, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'en Amérique latine. Même aux États-Unis, hein, franchement, ici, c'est beaucoup mieux.
Le tram peut être bien quand on n'est pas en heure de pointe. Parfois, les lignes de métro, pareil. Tout dépend, en fait.
Attention, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de valider son titre de transport. Merci.
Ça coûte trop cher.
Non, c'est pas ça coûte cher.
Bah, si, un ticket, c'est 2 euros, frère. Ça coûte cher.
Pour ceux qui habitent en banlieue, le fait qu'il y ait un tarif unique, bon, ça réduit leur coût. Mais c'est vrai que 75 euros par mois, quand on est étudiante, je trouve ça un peu cher.
Pour faciliter la montée, merci d'avancer vers le fond du bus.
Il y a des lignes, c'est propre. Il y a d'autres, c'est infernal.
Alors là, c'est très sale. Le métro, c'est pas très propre aussi. Pas très hygiénique.
C'est infernal, hein, le monde qu'il y a et la propreté. Alors dans les correspondances du métro, pour que ça soit sale, c'est que les gens sont sales, hein, parce que bon...
J'ai déjà vu des gens jeter des papiers, cracher par terre, donc je pense vraiment qu'il y a un problème au niveau de l'éducation des gens.
Dans le métro, il y a beaucoup d'efforts de fait, mais il faudrait pouvoir les nettoyer mieux peut-être, enfin qu'ils soient à certains endroits, ça sent tellement mauvais que c'est insupportable. Et puis qu'il y ait peut-être davantage d'escaliers roulants.
Nous vous rappelons que vous devez monter par la porte avant du bus.
Et quel serait le transport en commun que vous éviteriez absolument ?
La ligne 13, si je peux.
J'évite de prendre le bus à cause des embouteillages. Des fois, je vais plus vite à pied.
RER et plus spécifiquement le A.
Il y a toujours des problèmes, il y a trop de monde, il y a toujours des bagarres, c'est la foire.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous rappelle que cette rame rapporte terminus mairie d'Ivry. Je répète, terminus mairie d'Ivry.
Pour vous, ce serait quoi le transport en commun idéal à l'avenir?
Ah, je sais pas, moi. Qui viennent à la minute qu'on veut. C'est bien, ça.
Ouais, genre, on a des boutons, on appuie, comme ça, ils viennent directement.
Ah ouais, ça serait bien.
Alors, le problème des transports en Île-de-France, on est dans un pays qui est en train de voter une loi sur les mobilités qui prépare notamment l'ouverture à la concurrence. Comment se situe une ville, une métropole comme Paris, la région parisienne, par rapport à d'autres métropoles équivalentes en termes de services? On l'a entendu, les usagers ne sont pas très contents quand même, globalement. Qui veut répondre? Nassima Baron, Bertrand Goalou?
Bon, en un mot, hein, on est sur une capitale, sur une métropole qui est mature, c'est-à-dire qu'elle a des infrastructures. Structure de transport, le métro a 100 ans, mais la RATP fête ses 60. La régie autonome des transports parisiens qui gère le métro fête ses 70 ans, la SNCF 80. Donc on est sur des sociétés qui ont des infrastructures depuis longtemps, qui les gèrent et qui se font face à une augmentation importante de la demande, créant ces problématiques de congestion et ces problématiques, cette nécessité de maintenir une infrastructure et de renforcer la fréquence, hein, des métros, des trains, pour absorber de plus en plus de monde. Donc c'est une course contre la montre et aujourd'hui le mot-clé c'est congestion. Hein.
Bertrand Gualou, par rapport aux autres villes?
Je dirais qu'on se situe très bien. On a beaucoup de chance. Parce qu'en fait, si on regarde, il y a quelques chiffres clés. Bien sûr, on cherche l'amélioration continue. Il y a beaucoup de chantiers en cours. Les usagers sont très exigeants et ils se doivent de l'être. Mais on a beaucoup de chance parce que pour des déplacements à Paris intramuros et bientôt également sur l'ensemble de l'Île-de-France avec le projet du Grand Paris, on aura systématiquement des alternatives de transport public pour se déplacer. Paris intramuros, c'est 40% des déplacements qui se font par les transports collectifs parce que les gens ont une vraie alternative à l'usage de la voiture.
Quand vous dites on a beaucoup de chance, par rapport à qui, vous comparez à qui?
Alors déjà, par rapport, si on regarde l'Europe de l'Est, par rapport à Londres, on a beaucoup de chance si on regarde le prix du billet. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, chaque usager paye une part infime de ce que coûte réellement chaque déplacement. Quand on va à Londres, on paye, je ne sais plus quel tarif, mais jusqu'à 10 euros selon le trajet, on peut payer jusqu'à 10 euros pour un déplacement. Ça, les gens l'oublient, et tant mieux, ils n'ont pas à s'en occuper, mais on a quand même beaucoup de chance. Alors, où est-ce qu'on trouverait mieux? Évidemment, si on va à Singapour, ça marche beaucoup mieux en termes de propreté. J'ai entendu parler de propreté, de ponctualité. Évidemment, on est un cran au-dessus, mais ça reste très marginal.
Comment expliquer que l'Asie se positionne avec un réel savoir-faire pour fluidifier les populations, d'énormes populations qui transitent comme ça, d'un métro à un autre, d'un tramway, d'un bus?
Alors, il y a deux aspects. Le premier est culturel. C'est-à-dire que c'est lié à la densité de population. En fait, au bout d'un moment, on est obligé de s'ordonner, de s'autoréguler. Donc, en fait, les gens sont disciplinés et donc les transports collectifs le sont également et ça fonctionne de cette manière-là. Et après, c'est vrai que l'Asie en avance d'un point de vue technologique. Alors, l'industrie française n'a rien à envier à ce qui se fait aujourd'hui, mais ils montrent sur un certain nombre de réseaux toutes ces avancées technologiques qui font que la qualité du service va suivre. Mais là, on ne parle que d'une partie de l'Asie.
La discipline, la technologie?
Oui, je crois qu'il y a deux mots-clés. Ça rebondit avec ce que l'on vient d'entendre sur ce reportage. On nous parle de... Ces personnes ne se plaignent pas de la complexité du système de transport parisien qui est redoutable. Quand on présente la carte du métro ou du transilien
pour nos invités étrangers,
c'est un peu redoutable.
Très compliqué, oui.
Voilà. Donc ça, c'est le mot. Au-delà de la mobilité, il y a des capacités à se déplacer dans des réseaux complexes qu'on appelle, qu'un chercheur suisse qui s'appelle Kaufmann a appelé la motilité. C'est-à-dire avoir la capacité de se repérer dans l'espace, de suivre un plan, de suivre une signalétique, d'avoir confiance aussi en soi pour... se plonger dans la foule et puis ne pas avoir peur. Ça, c'est des capacités que les populations des grandes métropoles asiatiques, puisqu'elles sont habituées à la densité, un petit peu à l'altérité de ces foules, connaissent et finalement, on se met dans le flux et on suit. On suit un peu, on avance. Cependant, il y a aussi des éléments qu'on a entendus. Ah, ça serait bien s'il y avait des escalators, s'il y avait des ascenseurs. Il faut aussi accompagner, organiser ces systèmes de transport, parce qu'il faut penser aux personnes à mobilité réduite, aux aveugles et à un certain nombre de populations. Voilà.
Vous restez bien sûr avec nous, on va donner la parole à des auditeurs et puis également à notre invité à Dakar. On va reparler aussi des bus rapides transit qui s'avèrent comme une solution intéressante pour le continent africain. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous, parlez-nous de la situation chez vous.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Transport en commun dans le monde, la galère ou ça s'arrange chez vous? On est en ligne avec un voisin à Dakar. Bonjour Jean-Charles.
Bah bonjour.
Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant. Alors comment ça se passe pour vous?
Bah ça se passe un peu mieux comme ça.
C'est-à-dire?
Bah concernant les transports en commun. Surtout ici au Sénégal, le moyen le plus utilisé, c'est le Ndiaga, communément appelé. Mm-hmm. C'est un car très joli à voir. Il a des multitudes de couleurs, des dessins, et même visible sur votre page, j'imagine.
Oui. Alors bon, c'est un petit bus informel. Vous, c'est ce que vous prenez pour vous rendre en cours?
Non, en fait, j'habite tout juste auprès de l'université. Donc je l'utilise souvent pour aller faire des courses en ville et puis...
Vous êtes satisfait du service, Jean-Charles?
Bah non, pas tellement, mais c'est le mieux qu'on puisse faire.
Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas satisfait?
Bah juste que le nombre est trop pléthorique et puis on est... Bah, il y a beaucoup de gens. Et puis, c'est supposé d'être à 15, mais ça prend jusqu'à 25 à 30 personnes. Et puis, on ne descend jamais à l'endroit voulu.
Parce l'arrêt, il est marqué ou il est complètement informel? Comment ça se passe? Vous arrangez?
C'est le chauffeur qui décide là où il fait descendre.
D'accord. Vous êtes à la merci du chauffeur. Et quand vous sortez du bus, il faut faire bien attention en plus.
Oui, c'est souvent des accidents à la descente. Vous êtes susceptible de tomber. Parce que le chauffeur, il est toujours en concurrence avec les autres chauffeurs. Ils se convoitisent les clients qui sont censés être au prochain arrêt.
Mmh. Jean-Charles, vous avez déjà entendu parler du bus rapide transit?
Non, c'est du nouveau.
Alors restez en ligne avec nous, Jean-Charles, parce que nous accueillons le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le CETUD. Bonjour Thierno O.
Bonjour madame.
Vous avez entendu le constat de beaucoup d'auditeurs, j'ai lu pas mal de messages de l'un de vos compatriotes qui bien sûr ne connaissent pas le bus rapide transit et pour cause il n'est pas installé à Dakar. Aujourd'hui, où en est ce projet dans une capitale qui est complètement saturée par les embouteillages, par le manque de transport public? On parle en 2040 de 4 millions d'habitants, ça serait ça d'ici 10 ans?
Oui, effectivement, il est utile de revenir sur quelques éléments de contexte. Le CETUD est la première autorité organisatrice de transport en Afrique. Classiquement, ses missions portent sur l'organisation et la régulation du transport public de voyageurs. J'aimerais simplement rappeler qu'à Dakar, pour une ville aujourd'hui qui fait 3-5 millions d'habitants, nous réalisons 7 millions de déplacements par jour. Les 70% de ces déplacements sont réalisés à pied. 30% seulement sont motorisés. Et pour la part de déplacements motorisés, nous avons 80% de transport public. Effectivement, l'auditeur tout à l'heure a eu raison de dire qu'il y a un déficit d'offres qu'on constate du fait de la forte croissance démographique. Nous allons atteindre plutôt 7 millions d'habitants en 2040.
Ça sera 7 millions.
Forte croissance. 7 millions d'habitants et effectivement ça met en temps.
C'est-à-dire qu'attendez, vous êtes à 3,5 millions, c'est-à-dire que vous allez doubler dans 10 ans.
On double. Concrètement, c'est ça le rythme de croissance aujourd'hui des villes africaines. C'est bien démontré dans un rapport de la Banque mondiale de 2017. On est autour de 475 millions de citadins africains. 2040, on est 1 milliard. Les sujets sont là. Ouais. Comment faire de sorte à réconcilier les objectifs de croissance économique, les objectifs de performance environnementale et d'équité sociale en faisant des villes durables.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, il faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup d'auditeurs aussi qui souhaitent s'exprimer, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement en quoi va consister ces bus rapide transit? Ça va être une ligne qui va relier la banlieue nord au centre-ville. Comment ça va marcher?
Je vais en venir. Dans le cadre
rapidement,
de ce contexte,
s'il vous plaît.
En fait, l'AOT va agir sur deux leviers. On agit sur l'offre de transport public. Et on agit sur la demande en faisant de sorte à faire des pôles de centralité secondaires à l'est de l'agglomération. Je vais me concentrer sur l'offre. Avant d'en venir au BRT, depuis 2005, nous faisons un programme de renouvellement du parc. 65% aujourd'hui de l'offre de transport public est organisée. Et effectivement, les opérateurs professionnalisés respectent à travers une convention les règles d'exploitation de transport public. Nous allons achever en 2019 la dernière phase de renouvellement, ce dont parle l'auditeur. Effectivement, il y a quelques informels à réorganiser. Le BRT en question, s'inscrivant dans ce contexte avec le projet phare de train express régional, va relier le centre-ville au nord de l'agglomération sur 18,3 km. Nous sommes sur 450 millions d'euros d'investissement. C'est le projet majeur de l'État du Sénégal aujourd'hui pour régler la congestion de la capitale. 300 000 voyageurs par jour qui vont permettre qui vont se rallier le centre-ville en 45 minutes au lieu de 90 avec des bus écologiques. Le BRT est le premier projet de transport au monde et être soumis au Global Climate Fund, le Fonds vert climat, pour son financement. Et effectivement, nous allons investir fortement pour les années à venir sur du transport capacitaire parce que c'est la seule voie pour rendre les villes africaines, dont Dakar, performantes, qui aujourd'hui sont complètement congestionnées, saturées, alors que le taux de motorisation est seulement de 25 véhicules pour 1000 personnes. Donc,
et d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, on ne peut plus souhaiter une augmentation énorme du taux de motorisation, comme vous dites, d'augmenter les voitures, parce qu'effectivement, ça n'est pas la solution. On est dans une telle croissance urbaine qu'il faut sauter l'étape de la voiture comme l'a connue l'Europe pour arriver à des systèmes de transport très performants. En quelques mots, vous êtes en appel, pour l'instant, vous êtes en train de gérer les appels d'offres. Les travaux pourraient démarrer quand, pour une mise en service quand? En deux mots, s'il vous plaît, Thierno, vraiment en deux mots.
En deux mots, les appels d'offres sont en cours. Deux gros marchés. Les travaux, on ouvre les offres le 23 avril précisément. Et pour l'exploitation, c'est l'investisseur privé qui amène le financement sur le matériel roulant. On ouvre les offres le 4 juillet 2019 et la mise en exploitation est prévue fin 2021, décembre 2021, avec un travail qui est en cours sur le réseau de rabattement qui va permettre de relier efficacement le BRT et le TER.
D'accord.
Et le
TER. 2021, le prix du ticket sera à combien?
On sera sur 300 francs CFA, c'est le tarif actuel, parce qu'au cœur de ce projet, nous avons fait de sorte à rendre l'offre accessible. C'est éminemment un projet social qui tienne compte de l'indicateur dont je viens de parler, 80% aujourd'hui des usagers des transports à Dakar motorisés sont en transport public et nous tenons compte du taux d'effort des ménages sur les transports.
Donc, ça sera un prix largement subventionné, hein, c'est bien cela. Ça veut dire que...
Pas subventionné. Aujourd'hui, en fait, on est capable de faire du transport public quasiment rentable à Dakar, du moment où l'essentiel de l'investissement sur l'infrastructure lourde est supporté par l'État, que l'offre est complètement déficitaire.
Donc ça veut dire que le prix du ticket va couvrir les frais de fonctionnement du BRT?
Ça va, dans le contexte où nous sommes, ça va couvrir les frais d'exploitation du BRT.
Bon, il faudrait une émission sûrement entière pour parler des frais d'exploitation et des financements, parce que c'est compliqué. Néanmoins, Thierno, aujourd'hui, donc, vous nous annoncez que ce bus rapide transit sera en service sur une ligne de 19 km pour transporter 300 000 voyageurs par jour à partir de 2021. Merci infiniment.
2021.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour les auditeurs. Je ne sais pas, en tout cas, on refera une émission à ce moment-là, c'est sûr. Les médias relayeront. Merci d'avoir été en ligne. Vous êtes le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le CETUD. Nous donnons la parole à des auditeurs au 33 1 84 22 71 71. Juste un mot de commentaire sur les bus rapides transit. Est-ce que c'est vraiment la solution? Ça a été implanté au Nigeria, en Afrique subsaharienne. Est-ce que ces bus vont se généraliser sur le continent africain, Nassima Baron?
En deux mots, cette présentation, elle a été très intéressante parce qu'on a insisté sur les éléments, les transitions qui finalement justifient et déterminent le choix de ces nouveaux transports et de ces nouvelles mobilités. Donc la croissance démographique, les enjeux énergétiques, les enjeux technologiques, les dimensions économiques et financières. Je voudrais peut-être juste rajouter un déterminant qui me semble très important. Pour penser BRT, en fait, il faut aussi accompagner une croissance qui est spatiale. C'est-à-dire qu'une ville, bon, prenons Dakar, c'est le plateau, c'est une presqu'île. On peut prendre d'autres exemples, ces villes sud-américaines qui sont en altitude, ces villes estuariennes qui sont par exemple sur les rives, sur les littoraux en Inde ou en Asie. À chaque fois, on est dans des configurations géographiques particulières. Donc la ville, elle ne va pas s'étendre n'importe où. Et ces BRT, ces lignes de métro, elles sont aussi pour accompagner spatialement la croissance d'une métropole vers l'aéroport, vers une université, vers un port, par
mais
exemple.
Est-ce que toutes les villes en Afrique, quand on voit la croissance urbaine est tellement débridée, anarchique aussi, est-ce que toutes les villes peuvent prévoir des voies rapides? Puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de rail dans un bus rapide transit, mais il faut quand même des couloirs.
La réponse est oui, mais ce n'est pas facile à mettre en place. C'est-à-dire que globalement, le BRT, pour répondre à votre question tout à l'heure, le BRT est une forme de solution qui aujourd'hui doit être considérée par la plupart des villes africaines. Ensuite, c'est les conditions de mise en place et de développement de ces projets de BRT qui sont difficiles à atteindre. La plupart des villes africaines disposent d'avenues suffisamment larges pour pouvoir accueillir ce type d'infrastructure. Et tout, il y a différentes formes de BRT, donc tous ne sont pas aussi consommateurs d'espace que l'exemple de Bogota qu'on a pris tout à l'heure. Mais pour pouvoir mettre en place ce type de projet, il faut que ce projet soit porté. On a compris, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a lié aussi à l'offre actuelle qui est principalement informelle, avec des intérêts variés. Le témoignage qu'on vient d'avoir de la part de Tierno O est extrêmement intéressant parce que c'est une des clés de la réussite aussi. Mettre en place une autorité organisatrice qui puisse porter les projets et qui ait l'autorité de pouvoir le faire. Et le troisième volet de réussite, je le répète encore, mais c'est primordial, c'est associer en amont le secteur informel et s'assurer qu'ils aient une place dans le nouveau système. Ensuite, toute la partie ingénierie,
par exemple,
construction.
Ça peut être à la sortie du bus, de la ligne du bus rapide transit pour ensuite faire, je sais pas, le dernier kilomètre.
D'accord, ça peut être ça.
Réguler davantage,
limiter l'accès au corridor principal en horaire BRT, utiliser les bus informels. Mais aussi peut-être, et c'est une des clés de la réussite, associer les opérateurs informels aux futurs exploitants du BRT. Peut-être qu'ils ont un rôle à jouer, faire en sorte qu'ils se regroupent pour pouvoir exploiter aussi les
nouveaux systèmes. Quelle est la différence entre le bus rapide transit qui va être en service, on l'espère, en 2021 à Dakar, et celui qui existe par exemple au Pakistan, à Peshawar, je crois, non ?
À Peshawar, oui, qui sera mis en service à la fin de l'année. Alors, je ne connais pas tous les détails du projet de BRT de Peshawar, mais je sais que les ressorts sont les mêmes. Donc, en fait, c'est trouver un corridor structurant où on va massifier l'offre de transport et ne plus s'appuyer sur l'informel pour pouvoir déplacer les gens et offrir une qualité de service qui fait que le système de transport est accessible dans de bonnes conditions pour tous les usagers, y compris les plus vulnérables, inciter aussi les femmes qui parfois rechignent à prendre les transports pour des raisons qu'on peut comprendre, leur montrer qu'elles ont leur place, que leurs besoins ont été pris en compte, et aussi restructurer l'offre existante. C'est important. Et c'est des points communs qu'on trouve entre ces deux projets.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Galère ou amélioration chez vous pour les transports en commun? Nous sommes en ligne avec Flora qui nous appelle de France, d'Orléans. Bonjour Flora.
Bonjour Emmanuel, j'en profite pour dire bonjour aussi à Tierno que je connais. Donc je voudrais témoigner de ce que vit ma mère qui habite Tana, donc à Madagascar. Elle habite dans la banlieue de Tana, environ 12-13 km du centre. Pour se rendre dans le centre-ville, elle doit prendre le taxi B, donc plutôt une zone suburbaine. Et il faut compter, dans les meilleurs des cas, une heure pour 12 km et jusqu'à 3-4 heures de trajet aux heures de pointe. Mmh. Donc maman, elle n'est plus en activité professionnelle, mais j'imagine ce que peuvent vivre les salariés. Le retour le soir est encore plus problématique parce qu'il y a moins de véhicules disponibles. Donc il y a une file d'attente très très longue. Elle adopte du coup une stratégie alternative qui est celle de prendre une ligne interurbaine.
Oui.
Mais par conséquent, elle doit payer deux fois le prix de ce qu'elle devrait payer.
Ah oui.
Voilà. Oui, alors, c'est la garantie d'une moindre attente.
Ça, effectivement, et puis d'un confort peut-être aussi un peu meilleur. Il faut pas oublier aussi que pour les femmes, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, Bertrand Goalou, c'est compliqué les transports publics, les transports en commun. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Flora. Il y a Klaus aussi qui souligne pour les prix à Kinshasa. Il nous dit à Kin, les bus sont tellement rares que les chauffeurs en profitent pour augmenter les prix à leur guise. Vital à Bukavu également, RDC, une distance en bus de 5 km coûte 700 francs congolais, c'est-à-dire 38 centimes d'euros, ce qui est relativement élevé pour le niveau de vie sur place. Alors concernant le financement, le coût de ces transports et les prix, qui doit payer et quel est à l'arrivée, quelles sont les meilleures solutions pour que cela soit relativement juste socialement et équilibré, Bertrand Goalou?
Alors, le coût des transports, c'est le nerf de la guerre, parce qu'au final, quelqu'un a payé. Toute la question est de savoir qui et à quel moment. Évidemment, si on a des ressources, et on en parlait tout à l'heure, on a vu Pékin développer un réseau de 600 km de métro en moins de 20 ans, un réseau tout à fait moderne. Ils ont pu se le payer, les usagers peuvent payer le prix du billet, qui est très abordable, donc ça fonctionne très bien. Évidemment, ça ne peut pas être fait partout. Donc, essentiellement, sur les modèles qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a été évoqué dans le cadre Dakar, ça a été le cas aussi dans le BRT de Lagos. Donc la puissance publique va financer les infrastructures qui peuvent être, selon les capacités de financement, plus ou moins abouties et donc plus ou moins coûteuses. Et on recherche idéalement un exploitant privé qui, lui, pourrait couvrir l'investissement en matériel roulant, donc apporter les bus, et donc resterait à la charge de l'usager de payer les coûts d'exploitation et de maintenance. Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans le nouveau système, le coût du billet soit globalement ce que payaient les usagers avant, ou peut-être un petit peu plus, mais justifié par une qualité de service et des gains de temps. On a entendu parler de temps perdu. Et donc ça aussi, ça a une valeur. On voit aussi que certains usagers, s'ils ont la capacité de payer un peu plus pour gagner une heure ou deux, certains sont en mesure de le faire.
Mais d'abord, il faut les investissements, vous le disiez. Alors pour les pays qui peuvent rembourser, évidemment, tout le monde se précipite pour... Il y a des offres de prêts, hein. Ça peut être la Banque mondiale, ça peut être l'AFD, mais pour des pays qui ne sont pas réellement solvables, qui ne peuvent pas rembourser,
il y a d'autres modèles de financement, il y a des subventions, il y a des dons, donc il y a quand même aujourd'hui un panel de solutions pour d'abord commencer par les études, hein, commencer déjà par financer des diagnostics, faire le point sur le niveau de la demande.
Il y a des exemples aujourd'hui de pays qui ne sont pas solvables, à qui on a fait des dons pour mettre en place un réseau de transport public.
Il y a beaucoup de travaux sur tous ces pays qui sont aujourd'hui non seulement émergents, mais même en développement, en croissance très importante du point de vue démographique et du point de vue urbain, qui de toute manière ont besoin de suivre et de qualifier les transformations de la mobilité, les transformations urbaines, et donc d'avoir des points de repère quant aux nécessités demain de trouver des solutions, d'être solutions plus collectives. Au-delà de ces outils financiers, au-delà de ces dimensions un petit peu macro du business model, il y a aussi, pour se mettre au niveau des usagers, il y a aussi le gros enjeu de l'intégration tarifaire, c'est-à-dire que sur ces autorités organisatrices qui commencent à se monter au niveau métropolitain, pas seulement municipal, mais métropolitain, parce qu'il faut bien comprendre effectivement qu'on a des trajets périphérie vers le centre, centre vers le périphérie, donc on est au-delà d'une municipalité, on est sur plusieurs municipalités. L'enjeu de l'intégration tarifaire, c'est de se dire, oui, il y a le métro ou le BRT ou les bus informels, peut-être que demain, il faudrait une carte. Et après, il faudrait aussi essayer de diversifier la distribution. Bon, peut-être que je vois un peu en prospective, mais je suis très frappée de voir que c'est difficile aujourd'hui de dématérialiser, même la vente, hein, sur ces je pense au Maroc, bon, on a fait des tramways flambant neufs, on continue à en construire à Casa, à Rabat, etc. Mais sur chaque station, il y a toujours une mini guérite avec un monsieur qui vend les tickets. Peut-être que voilà, l'idée de rendre effectivement, de le mettre par des machines...
La gratuité des transports, c'est réclamé à l'heure actuelle, par exemple en France, il y a une demande citoyenne d'un certain courant. Est-ce que ça peut être une stratégie payante ou pas pour les États ?
Je pense qu'il y a d'autres questions à se poser avant d'envisager la gratuité des transports, surtout dans les pays, dans les villes d'Afrique subsaharienne.
Alors, c'est clair, là, pour ce qui concerne le continent africain, on reçoit beaucoup de messages qui parlent beaucoup de la sécurité aussi. On n'en a pas parlé parce qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs en parlant de bus rapide transit qui n'existent pour ainsi dire pas sur le continent africain, à part le Nigeria et peut-être demain Dakar. Mais encore une fois, des pays solvables qui ont des prêts, ce n'est pas le cas de tous les pays du continent africain. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Ibrahima nous dit circuler à Conakry dans les Magbanas, les minibus en état de délabrement poussé, nous dit Ibrahima. C'est s'exposer à des risques énormes. Maram à Yaoundé nous dit les chauffeurs de bus ne pensent qu'à l'argent. Il m'est arrivé de monter dans un bus qui n'a presque pas d'amortisseur. Un bus où les freins lâchent en pleine circulation. Pas de visite technique. Recrudescence du transport clandestin. L'État ne fait rien pour pallier le calvaire des citoyens. L'inconfort aussi pointé par Mahamat à Conakry, On se bat pour avoir une place dans un taxi collectif. Les voyages de plus de 1000 km, Conakry-Bamako, par exemple, se font en taxi à 8 ou 10 personnes dans une voiture à 5 places. Voilà, Nadi, à Libreville aussi, les bus appelés Clando tombent en panne tout le temps. Les gens se battent pour monter, se font écraser les pieds. La galère à cause de la transpiration et des effluves des clients. C'est vraiment ce que vivent nos auditeurs. Hein. Je vous propose maintenant un reportage en Mauritanie. C'est la seule voie ferrée du Sahara. Elle relie sur près de 700 km Ouagadougou, la capitale économique, à Zouerat, cité minière dans le nord-ouest du pays. Cette ligne a été mise en service au début des années 60 pour acheminer le minerai de fer avec le grand minéralier qui est le train le plus long, le plus lourd d'Afrique, plus de 2 km de long. Il est d'ailleurs tiré par deux locomotives. Il y a un wagon payant qui est destiné aux passagers, mais la plupart des Mauritaniens, commerçants, bergers, choisissent de voyager gratuitement sur les wagons à ciel ouvert, comme on dit, dans la poussière noire du minerai de fer. Le trajet dure 17 heures. Raphaël Constant a emprunté ce train depuis Choum. On la retrouve accompagnée de Sid Ahmed, guide du train du désert pour Point Afrique.
Là, on est actuellement sur le marché de poissons. Et de l'autre côté, à gauche, c'est le marché des légumes. Et puis de l'autre côté, de la viande. Et donc, un marché divisé en quatre parties. Salam alaikum wa
rahmatullah.
Salam alaikum.
Comment vous appelez?
Je m'appelle Mohamed Bombosissé.
Et vous êtes de Zouerat?
Oui, je viens de Zouerat. Ouais. On prépare les poissons pour le vendre pour les gens ici à Zouerat, Inch'Allah. On l'amène avec les poissons à Ouagadougou, on met dans les trains sur la Ouagadougou, on l'amène jusqu'à ici. On va.
Et c'est le seul moyen d'avoir du poisson, d'aller le chercher en train?
Oui, oui, c'est le train seulement qui ramène.
C'est-à-dire que le moyen de transport à Zouerat, c'est le train. Quand tu dis à Zouerat, toi, est-ce que tu as pris le train? Là, il va rigoler. Comme tu as dit, est-ce que tu as déjà monté une voiture? Pour nous, c'est évident. Le mois dernier, on a eu un problème de la pluie qui a vraiment ravagé beaucoup de la voie. Et donc, on a eu 2 jours d'arrêt. C'était catastrophe sur la ville de Zouerat. Parce que la ville de Zouerat dépend que du train. Mais c'est vrai que, heureusement, alhamdoulilah, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il y a cette route entre Zouerat et Nouakchott. Mais le moyen essentiel qu'on est habitué, on restera toujours habitué, c'est le train. Pour des photos, c'est mis de ce côté. On voit la lumière du train minéralier, donc qu'on appelle l'M4.
Ça fait un moment qu'on la voit. Elle arrive tout doucement.
Elle arrive tout doucement sur nous.
Voilà. Il se fait désirer. C'est la poésie du train. À point. Parce que ça fait penser aux premiers temps du Far West ou même en Europe, les premiers temps du train. Quand on voit comment on manipule les aiguillages, par exemple. Oh là là. Oui. 2 locaux.
Il y a le chauffeur qui sort. De wagons là.
Ah, je ne les ai pas comptés, mais on en voit beaucoup passer là.
Hein. Regarde sur le haut, on voit des marchandises sur le haut de certains wagons.
On voit sur le wagon du minerai de fer des passagers avec leurs caisses pour chercher du poisson de noix du bout pour l'amener à Zouerat. Donc on voit leurs caisses, regarde.
Ah oui, il y a des gens en haut.
Ah, des gens en haut avec leurs bagages. Surtout, ce sont des sacs qu'on met le poisson à l'intérieur. Regarde, on va des glacières encore, on va des glacières. Donc pour mettre le poisson à l'intérieur de ces glacières et ces caisses. Et on va des citernes d'eau, parce qu'encore la ville de Zouerat est alimentée par le train en eau de Boulot Noir, 80 km de Ouagadougou.
Il est long, 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 ça s'arrête pas.
Là, il est petit par rapport à ce que nous on connaît, parce que là, il n'y a pas de wagon voyageur. Pour les Mauritaniens, pour les passagers mauritaniens et pour les gens qui travaillent la nuit. Donc c'est un petit train par rapport à nous. Là, tu as normalement 110 wagons. Si on compte bien, 110, 115 wagons.
Ça va?
Comment ça va?
Vous venez d'où?
Nous venons de Nouadhibou. Celui-là, c'est un portugais.
Lisbonne.
Lisbonne.
Ça va?
Pourquoi vous êtes dans le grand train minéralier? Vous êtes en vacances?
Oui, oui, oui. Je fais des photos, je connais les gens. Oui.
Et ça se passe comment, votre voyage?
C'est dur, ça, c'est très dur. Il n'y a pas de conditions confortables pour les gens.
Monsieur, vous êtes avec lui?
Non, 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 moi je suis mauritanien. Bon, je parle de ce côté où il y a l'or. C'est parmi les gens qui cherchent de l'or. Si moi,
vous êtes un chercheur d'or?
Oui, chercheur d'or, oui. C'est ma deuxième fois. J'ai déjà fait un voyage. Bon, ça a été bien. Et maintenant, c'est ma deuxième fois. Bon, j'ai fait partie d'une équipe qui se trouve actuellement à Zouerat.
Faites attention. Vous
repartez là?
Oui. Bon, ça commence. Bon, le train va partir, je suis con.
Vous êtes tout là-haut perché, j'ai du mal à vous entendre. Bah, je peux plus vous suivre, ça va trop vite. Bon voyage.
Bon voyage. Bon voyage à la fille.
Voilà, vous pouvez retrouver en podcast le reportage en intégralité de Raphaël Constant dans l'émission Si loin, si proche, à propos aussi de la nouvelle ligne touristique à bord du train Mauritanie, train du désert, le lien est sur notre page 7 milliards de voisins. Alors ce fameux train du minerai, c'est plus de 2 km de long, tiré par deux locomotives. Je le redis encore, le trajet dure 17 heures parce qu'au tout début de l'émission j'ai 17 heures, il manquait bien un 1, c'est 17 heures hein, donc c'est un voyage, ça pose bien quand même la problématique aussi de relier les villes entre elles, hein, Nassima Baron.
Le ferroviaire, c'est un outil de transport interurbain et c'est un outil historiquement de mobilité et même de migration. C'est-à-dire que les populations trouvent une... Ça montre le chemin, ça montre la ligne, ça montre la direction.
Sauf que le train en Afrique, il n'y en a plus beaucoup.
Mais on voit bien effectivement les problèmes de pénibilité, les problèmes de sécurité. Alors je veux bien revenir un petit peu sur cette distinction peut-être sécurité-sûreté qui est importante. Alors les usagers, ils pensent sécurité, c'est-à-dire ne pas être volé, ne pas avoir de problèmes d'agression, évidemment, de violence ou de difficultés, tomber malade par exemple, secourir. C'est important parce que ça permettrait, s'il y avait un petit peu plus... Voilà, d'assurance, hein, de voyager dans de bonnes conditions, de permettre aussi à des femmes, à des enfants, à des personnes âgées, donc d'ouvrir un peu ce mode de déplacement à toute la population. Mais il y a aussi des problématiques de sûreté, c'est-à-dire qu'on sait que les transports ferroviaires, quand ils ne sont pas suffisamment, on va dire, régulés par des normes, c'est l'accidentalité qui guette, c'est-à-dire que c'est le fait qu'ils sont désuets, qu'ils n'ont pas été peut-être révisés, ou alors qu'il y a le problème de l'interopérabilité d'un pays à l'autre, hein, quand ces lignes elles sont très très longues, et moi, je ne sais pas, les normes de signalisation, par exemple, d'un pays à l'autre, elles peuvent peut-être, avec des feux rouges, des feux verts, des signalisations techniques qui peuvent ne pas être complètement harmonisées. Donc ça, ça pose des problèmes.
Bertrand Goualou, le train en Afrique, il ne faut pas rêver, c'est du passé?
C'est pas forcément du passé, mais on se rend compte que certains pays disposent d'un réseau. Donc on a un réseau en Égypte, on a un réseau au Maroc, et on a quelques lignes historiques. Donc ces lignes-là, en fait, ça fait partie du patrimoine, il faut les mettre à profit pour essayer de remettre en place des services. Mais effectivement, des investissements pour la création de lignes ferroviaires nouvelles, c'est des investissements qui sont assez forts, et pour l'instant c'est difficile à en mettre en place. Donc on a des logiques, et c'est ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, de remise à niveau, c'est ce que Nassima disait. Et il y a des logiques aussi plus financières. Je pense à la ligne du Trans-Gabonais, qui est une ligne de 600 km, donc qui relie Libreville à Franceville, qui est une ligne minéralière, et en fait, qui est en cours de réhabilitation. Mais ils ont réussi à maintenir des services voyageurs. Donc, dans ces cas de figure-là particuliers, les voyageurs peuvent profiter aussi des infrastructures.
Voilà. Mais et évidemment, ça reste marginal. Et pour toutes les autres liaisons entre les villes, eh bien, c'est la galère traditionnelle des transports par la route. Merci à tous les deux, Nassima Baron, Bertrand Goualou. Nassima Baron, vous êtes géographe à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bertrand Goualou, vous êtes référent transport urbain à l'AFD. Merci à vous tous. À demain.